Chers frères et sœurs et chers amis, chers auditeurs et chères auditrices, étant de langue allemande, je prends parfois certains versets bibliques dans la Bible allemande. Et j'ai fait une erreur de traduction, et quand on travaille pour Dieu, il peut arriver de se tromper car nous sommes que des pauvres humains limités, surtout moi, à un très grand âge. Mais dans ce cas, je n'ai pas le droit de trouver des excuses. Mon devoir, c'est ce que je fais maintenant, c'est de tout recommencer, car tout ce qui touche à Dieu exige la perfection autant que humainement possible. Donc, la série importante que nous commençons, ce n'est pas le fondement de la révélation, comme j'ai mal traduit, mais le fondement de la rédemption. Nous en viendrons bientôt au mot de révélation qui aura tout son sens, mais pas pour le titre principal de la série. Donc c'est le fondement de la rédemption, notre série. En tant qu'anal du salut, les Saintes Écritures sont un tout complet, un organisme palpitant de vie et un ensemble ordonné de prophéties inscrites dans l'histoire suivant un plan déterminé. C'est une merveilleuse structure, un tout harmonieux, aux proportions parfaites, unis en tous, on peut dire en tous ses aspects, dans l'optique d'un but absolument unique, c'est-à-dire notre Christ. Et de cette majestueuse et divine symphonie, c'est le royaume de Dieu en son développement progressif d'époque et de périodes successives qui est la mélodie directrice et le canevas de base. Mais pour interpréter correctement ces annales du plan vraiment rédempteur, puisque nous parlons du fondement de la rédemption, alors je répète, pour interpréter correctement ces annales du plan rédempteur de Dieu et faire justice à la nature réelle et essentielle de l'Écriture sainte, pour saisir toute l'harmonie des choses reconnues et existantes, nous avons besoin d'attention et beaucoup d'humilité. La Bible doit être lue avec le discernement des éons, c'est-à-dire en tenant compte des dispensations ou économies, des étapes et des catégories. Ici, l'esprit humain peut, d'un vaste coup d'œil, embrasser les mondes et les âges, s'élever au-dessus du cercle étroit de son propre cadre, au-dessus des frontières de nationalité ou de culture. Oui, au-dessus même du présent ou de l'ensemble du temps. Ici, il embrasse en un seul regard le passé, le présent et l'avenir, et cela jusqu'à pénétrer dans les profondeurs mêmes du Très-Haut. Nous entreprenons notre tâche dans cet esprit, notre propos étant de donner une esquisse du salut, et cela en son développement divin à travers les millénaires de la création du monde et au rédempteur du monde. Nous n'avons pas la prétention de tout dire, de tout savoir, pas davantage d'établir une comparaison entre les conceptions bibliques et les conceptions philosophiques modernes. Nous ne voulons pas dresser face à face l'attitude critique positive et l'attitude de la critique libérale. On peut dire cette étude, il faut bien le dire, elle n'est pas une sorte de défense de la foi, mais elle est une histoire du salut. Et il ne serait pas sage de vouloir en étendre l'objet. Aussi considérant comme certain que la Sainte Bible est digne de confiance, et notre étude traite de l'unité historique de la Sainte Bible. Il s'efforce pour cela de passer en revue le plan biblique de l'histoire et le développement de l'humanité tel qu'il se présente du point de vue divin, dans leur harmonieuse variété, dans leur universalité et leur enchaînement progressif. À lui donc, le roi des âges, qui est immortel, qui est invisible, c'est-à-dire le seul Dieu, soit tout l'honneur, toute la gloire aux âges des âges. Amen. 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Chers amis, bénis soient non pas ceux qui cherchent à savoir quelque chose au sujet de Dieu l'Éternel, mais bénis soient ceux qui cherchent l'Éternel, qui cherchent Dieu lui-même, ce qui n'est pas pareil. La réponse que Dieu donne, c'est lui-même en la personne de son Fils, en tant que Verbe éternel. Le Fils est le centre de la révélation divine dans l'univers tout entier. Toute chose procède de Dieu, et cela explique le présent, à savoir le processus de rédemption du monde. Romains, chapitre 11, verset 36. Toute chose retourne à Dieu. En cela se révèle le but de toute échatologie et le caractère essentiel de la consommation du monde entier. Selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28. Ainsi Dieu est le Seigneur révélé en Christ. Il est le rocher de tous les âges. Il est le fondement originel, personnel et vivant de toute existence. Mais la Sainte Parole éternelle se révéla elle-même en la parole exprimée. Ce Verbe prononcé devient la parole écrite et la parole écrite devient la Sainte Bible. C'est pour cela que la Sainte Bible est la clé nécessaire des événements mondiaux. C'est le livre de l'humanité. C'est le livre de l'histoire. Et c'est pour cela que tout dépend de l'entendement que l'on en a. Car sans elle, nous ne sommes que créatures marchant à tâtons dans un obscur cachot. Mais sur celui qu'éclaire la Sainte Bible, c'est le soleil qui se lève et avec lui les cieux dans tout leur éclat. Les pas de cet homme, de cette femme, sont alors illuminés, sa vie devient lumière, le temps est transfiguré, ce qui est divin remporte la victoire, en sorte qu'il peut dès lors comprendre toujours davantage ce mot grandiose. Maintenant est l'éternité. Comme je l'ai déjà dit, ce titre de notre première partie de cette étude, c'est le fondement de la rédemption. Chers amis, avant de continuer, je dois vous dire que j'essaie toujours de citer les versets bibliques pour justifier et pour concrétiser la véracité de ce que vous entendez. C'est important pour que vous puissiez contrôler si on ne vous raconte pas une philosophie personnelle, mais que on essaye de vous apporter la sainte parole de Dieu telle qu'elle doit être comprise. Ce n'est pas toujours facile de tout étayer par les citations bibliques, mais au possible, j'essaie toujours de le faire, même si souvent je prends des versions allemandes, mais vous avez de très bonnes versions en français. Pour en citer qu'une, c'est la version qui est la version des darbistes qui ont, en son temps, écrit vraiment, on peut dire, une Bible extraordinaire. On y reviendra, du reste, tout au long de ces études. Et je vous citerai donc quand ce sera de cette version-là. Donc, chers amis, comme vous l'avez compris, avant la création, il y avait déjà Dieu. Dieu est l'Esprit unique, éternel et absolu, selon Saint Jean chapitre 4, verset 24. Spiritualité, unité et éternité sont les éléments essentiels de son existence en ce qu'il est lui-même le sommet de toute vie parfaite. Il constitue la plus vraie de toutes les réalités, volontés conscientes personnifiées, suprapersonnalité éternelle, qu'aucun effort de l'homme fini ne pourra jamais expliquer. Je ne fais pas la guerre à des dénominations religieuses, jamais. J'ai assez à faire pour me tenir au mieux très près de la vérité fondamentale des Saintes Écritures, sans faire de la polémique contre ceux qui pensent totalement différemment. Nous aurons tous un jour des comptes à rendre devant Dieu, et donc je prends cela très au sérieux. Aucune preuve ne saurait être présentée en faveur de l'existence de Dieu, car la Bible elle-même ne s'y efforce pas du tout. L'idée de Dieu transcende toute forme humaine de pensée. Tout effort accompli par nous, créatures sorties de la poussière, pour essayer de démontrer Dieu, n'est que présomption et illusion. Par nature, Dieu est éternel et infini. Comment pourrait-il dès lors devenir l'objet d'une aveugle spéculation d'homme? Il ne faut cependant pas sous-estimer ce que nous appelons les preuves de l'existence de Dieu. Dérisoires, elles ont pourtant le mérite de montrer que la foi en Dieu est compatible avec la raison, faisant du monde visible un symbole du monde invisible et un témoignage rendu à ce qui est éternel. Elle accule notre entendement à ce dilemme final où notre pensée repose sur une chimère inévitable où Dieu existe et notre pensée est l'expression d'une réalité universelle inconditionnelle. Il est donc clair, tel est le témoignage de la création, car Dieu est, tout simplement, il existe. En tant que cause initiale de toute chose, fondement originel du monde, on ne peut échapper à cette conviction lorsque, regardant vers le passé, on s'interroge sur les origines de tout ce qui existe, à savoir d'où viennent toutes choses. C'est la preuve cosmologique, selon Aristote, Cicéron, Leibniz et Schleiermacher. En tant que maître architecte du monde, artisan habile et sage, cette conviction naît d'une considération du présent où se reconnaît le comment ou ordonnance de toute existence. Notez Romains chapitre 1 verset 20, Psaume 104 verset 24, ainsi que le Psaume 94. Verset 9. C'est la preuve physiothéologique selon Socrate, Aristote, Leibniz et Wolff. En tant qu'ordonnateur dont le plan donne au monde le but et la raison d'être, cette conviction s'impose lorsque, tournant le regard vers l'avenir, on s'interroge sur la signification et le jusqu'où de toute existence. C'est la preuve théologique du grec telos, qui veut dire le but de l'existence de Dieu. Et là, nous avons Socrate, Platon, Philon et tous les scolastiques. Tant que l'âme humaine, elle aussi, elle témoigne de l'existence de Dieu. Et cela en tant que conception ultime de l'entendement. Comment la pensée la plus élevée serait-elle irréelle? C'est la preuve ontologique, selon Anselme, très connu, Descartes, Spinoza, Schelling et Hegel. Et cela, en tant que législateur suprême de la volonté et de la conscience, comment la loi morale serait-elle venue à l'existence sans un législateur? C'est la preuve morale, selon Kant. Et cela, en tant qu'unique source capable de satisfaire l'âme. Comment expliquer autrement que l'âme ne puisse trouver aucun repos jusqu'à ce qu'elle s'abandonne à Dieu? C'est la preuve psychologique, selon Tertullien, Augustin et Schleiermacher. Ainsi, toute chose ici-bas rende témoignage de son existence. Le monde qui est au-dedans, au même titre que celui qui est en dehors de nous. Oui, l'homme extérieur autant que l'homme intérieur. Sans Dieu, le monde ne serait qu'un tombeau dévorant, un monstre ruminant sans repos. C'est ce que disait déjà Goethe. Ce serait un organisme géant, réglé avec exactitude et minutie, jusque dans les plus petits détails et ordonné selon un dessin précis, mais dont le vrai motto, en son étendue, se trouve dans sa totalité et serait précisément de ne répondre à aucun but ou dessein quelconque. Sans lui, les valeurs de ce monde ne seraient que fantaisie irréelle. Oui, serait le fondement de ce qui est significatif et serait à toujours l'absence de toute signification. Non, 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 face à l'incommensurable sagesse déployée dans l'univers tout entier, l'incrédulité est folie et stupidité. Les insensés seuls disent dans leur cœur « Il n'y a point de Dieu ». Il faut vraiment être insensé pour dire cela. Et je n'aimerais pas être à leur place un jour devant le trône de Dieu. Notez le psaume 14, verset 1. Dieu est amour. Notez la première épître de saint Jean, chapitre 4, verset 16. Oui, l'amour, c'est l'élément le plus profond de son être. C'est le centre créateur dont procède son œuvre et son gouvernement. Mais l'amour est une triunité. Augustin, qui n'était pas n'importe qui, a dit « Si Dieu est amour, il doit y avoir en lui quelqu'un qui aime, un bien-aimé et un esprit d'amour, car aucun amour n'est concevable sans quelqu'un qui aime et quelqu'un qui soit aimé. » Et je connais une pasteur qui croit cela à la lettre. Déjà parmi les hommes, une dualité d'amour peut trouver sa satisfaction dans un lien d'amour, c'est-à-dire précisément en elle-même. Néanmoins, le concept d'amour implique toujours, quoi ? Une triunité. Voyons cela de plus près. Il y a une origine parce qu'il procède de celui qui aime. Il y a une destination parce qu'il se déploie envers l'être aimé. Il y a une communion parce qu'il unit les deux en un commun esprit d'unité. Et quand il y a une brouille, on se repent sincèrement et on se raccommode. Là où il y a amour, il y a trinité. Jusque-là, la pensée humaine ne peut trouver son chemin, bien que ce soit à tâtons. Mais que trois personnes de la divinité correspondent à ces trois conceptions fondamentales de l'idée de Dieu, cela, la seule révélation du Dieu éternel peut nous le faire connaître. Le Père et Dieu de qui tout procède par nature. Le Fils est Dieu, vers qui tout s'oriente, et l'Esprit Saint est Dieu, par qui tout se meut, tout peut se mouvoir. Le Père est donc celui qui aime, le Fils est celui qui est le bien-aimé, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'amour. Trois personnes divines et pourtant un seul Dieu. Égalité de nature entre le Père et le Fils, pourtant le Fils s'est volontairement soumis au Père. Notez 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28. La cause de toute causalité, le motif de toute raison, l'origine de toute cause est pourtant lui-même et sans origine. Et c'est vrai. Ici, le mystère est insondable, en tout cas pour moi, car l'esprit conditionné comme il est en nous, par l'espace et le temps, ne saurait atteindre la sphère de Dieu tellement au-delà de l'espace et du temps. La faculté de discerner les êtres ou les choses n'est en effet donnée que aux êtres de même nature, et le discernement de Dieu n'est possible que à Dieu. Oui, qu'est-ce que Dieu a fait? On peut se le demander. Qu'est-ce qu'il a fait? Et cela avant la fondation du monde. À cette question, diverses réponses ont été proposées. Voyez-vous, certains l'ont simplement rejeté comme étant sans fondement. D'autres ont tenté d'y apporter une réponse philosophique telle que Origène. La Bible adopte une attitude intermédiaire en ce que pour habiller ces informations relatives à l'éternel et au supratemporel, elle voile et dévoile à la fois, tirant ses formes de pensée du domaine de la création et de l'espace. Par exemple, notez Ésaïe, chapitre 43, verset 10. Donc, les Saintes Écritures donnent ainsi une septuple réponse à la question de savoir ce que Dieu, antérieurement à la fondation du monde, oui, je répète, les Saintes Écritures donnent ainsi une septuple réponse à la question de savoir ce que Dieu est antérieurement, ce qu'il est vraiment antérieurement à la fondation du monde. Voyons cela. L'Esprit de Dieu n'est pas simplement une force, une puissance, mais c'est une personne divine. Il est ainsi possible de parler de triunité divine. Le mot trinité, en fait, on aura remarqué que nous préférons le mot triunité. Et cela ne se trouve pas dans la Bible, mais le fait s'y trouve. Notez par exemple 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, 1 Épître de Pierre, chapitre 1, verset 2, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13 et 14, Éphésiens, chapitre 2, verset 18 à 22, et Hébreux, chapitre 9, verset 14. Cela vous aidera à mieux comprendre que même si le mot de la triunité ne se trouve pas tel quel dans la Bible, il se trouve tout de même dans la Bible le fait que cela est une réalité. Premièrement, Dieu, il a créé les anges et les étoiles. De là, cette fameuse question posée à l'homme insignifiant que nous sommes, où étais-tu quand je fondais la terre? Qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Notez Job, chapitre 38, verset 4 et le verset 7. Deuxièmement, Dieu était en communion d'amour éternel avec son Fils bien-aimé, et cela bien avant ses œuvres les plus anciennes. Dieu a possédé, ou plutôt il possédait l'éternelle sagesse. Je répète pour que ce soit pas mal compris. Avant toutes ses œuvres les plus anciennes, Dieu possédait l'éternelle sagesse. Notez Proverbes chapitre 8, versets 22 et 23. J'ai pris cela littéralement. Et la Sainte Parole qui plus tard allait apparaître en la personne du Christ, notez Saint Jean chapitre 1 verset 14, eh bien cette Sainte Parole était déjà éternellement présente avec Dieu, et cela dès le commencement, dans des rapports de mutuelle communion. Saint Jean chapitre 1 verset 2. Le Père aimait le Fils. Tu m'as aimé dès avant la fondation du monde, allait dire Jésus dans Saint Jean, chapitre 17, verset 24, et en Saint Jean, chapitre 17, verset 5, il dit « Glorifie-moi, Père, avec toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, et cela avant même que le monde fût, car le Fils était avec le Père, selon la version allemande. » Donc, la Sainte Parole éternelle, vous pouvez noter Saint Jean, chapitre 1, versets 1 et 2. Là, vous verrez, vous avez la Sainte Parole éternelle. Ensuite, dans Proverbes chapitre 8, versets 22 et 23, vous avez la sagesse éternelle. Ensuite, dans Saint Jean chapitre 17, verset 24, vous avez l'éternel bien-aimé. Et, dans Saint Jean chapitre 17, verset 5, vous avez l'éternel glorieux. Troisièmement, Dieu a préparé selon son dessein le salut des individus. C'est pourquoi il a écrit leur nom dans le livre de vie de l'agneau avant le commencement du monde. Apocalypse chapitre 13 verset 8 et chapitre 17 verset 8. En fait, il les a prédestinés dans l'amour à l'adoption et à la sainteté antérieurement à toute création. Éphésiens chapitre 1 verset 4 et 5. De la même manière, il leur a promis la vie. Notez Tite chapitre 1 verset 2. Et cela avant tous les temps. Donc du point de vue de Dieu, qui est, comme vous le savez, hors du temps, la grâce nous a été donnée avant le temps des âges. 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Quatrièmement, Dieu a préparé selon son conseil le salut de l'Église depuis l'éternité déjà. Cette étonnante structure que est le corps du Christ, cette étonnante structure était déterminée par le Rédempteur. En Dieu était déjà caché le mystère du Christ, savoir que ceux des nations seraient dans le Christ Jésus, ils seraient co-héritiers, co-membres et co-participants de sa promesse par l'Évangile. Éphèse, chapitre 3, verset 6. Cinquièmement, Dieu a désigné son Fils bien-aimé pour être le médiateur de son plan de salut. Ce Fils est l'agneau sans défaut et sans tache, préconnu et immolé avant la fondation du monde. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 19 et 20. Le Christ est le médiateur de la création du monde, car en lui, toutes choses ont été créées, tant celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Notez Colossiens chapitre 1 verset 16, notez Apocalypse chapitre 3 verset 14, sans oublier Saint Jean chapitre 1 verset 3. Donc, chers amis, il est le médiateur de la préservation du monde, car toute chose subsiste uniquement par lui. Colossiens chapitre 1 verset 17, et Hébreux, chapitre 1, verset 3. Il est le médiateur de la rédemption du monde. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, il a voulu par lui réconcilier absolument tout avec lui-même. Notez Colossiens, chapitre 1, verset 19 et 20, Éphésiens chapitre 3 verset 11, et vous pouvez noter Hébreux chapitre 1 verset 2, ainsi que la première épître de Pierre chapitre 1 verset 20. Il est donc le mandataire divin du jugement du monde, car le Père, comme vous le savez, a remis tout jugement au Fils, selon Saint Jean, chapitre 5, verset 22. Sixièmement, dès la fondation du monde, Dieu a préparé le royaume destiné aux siens. Le roi dira un jour à ceux qui sont à sa droite, écoutez bien, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Saint Matthieu, chapitre 25, verset 34. Et c'est pour cela aussi que la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, avait été préordonnée par lui pour notre gloire déjà avant les âges. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Et nous arrivons à septièmement. C'est de toute éternité que le Fils voulait parfaire l'œuvre de rédemption. C'est pourquoi sa mort ultérieure en croix a réellement été une offrande volontaire à Dieu par un esprit éternel. Hébreux chapitre 9, verset 14. Et ce même esprit par lequel aussi furent accomplies toutes ces autres œuvres, bien que subies dans le cadre du temps, la mort du Christ fut cependant supra-temporelle. Ainsi, derrière le cours entier du temps, il existe des réalités éternelles. Ce qui est infini coule dans le temps, comme le temps finalement se fondra dans l'éternité. C'est ainsi que, suivant un plan éternel, le Père a choisi le Fils comme rédempteur afin de le donner au monde perdu. Saint Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous connaissez la suite. Et notez aussi 2 Corinthiens chapitre 9, verset 15. En même temps que, selon le même plan éternel, il lui donnait pour héritage à lui, médiateur du salut, l'armée tout entière des rachetés. Psaume, chapitre 2, verset 8, et Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Le Fils était donc le don du Père au monde, tandis que le monde, dans la mesure où il est racheté, devenait le don pré-temporel du Père au Fils. Notez Saint Jean, chapitre 17, verset 6, verset 9 et le verset 24. Dans la prière sacerdotale, le Fils pouvait donc désigner ceux qui n'étaient pas encore nés de nouveau, mais qui plus tard viendraient à la foi comme ceux que le Père lui avait déjà donnés. Saint Jean chapitre 17, verset 24, ainsi que le chapitre 17, verset 20. De même que Saint Paul n'hésitait pas du tout à écrire comme un fait accompli, que ceux que Dieu a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains, chapitre 8, verset 30. Le développement historique de cet éternel décret de rédemption prend donc dans le temps la forme d'alliance avec l'humanité et de testament en sa faveur. Le but en est l'alliance éternelle que a inauguré le sang du Fils de Dieu, selon Hébreux chapitre 13, verset 20. Ces paroles ne sont pas dans l'Écriture sainte simplement pour la satisfaction de notre curiosité ou pour nous permettre de compléter notre connaissance intellectuelle de l'histoire du salut du monde. Elles sont là afin de nous montrer la grandeur de l'amour divin. Car même avant tous les âges du temps, le Très-Haut se préoccuper de votre gloire et de la mienne. Oui, avant que les fondements de la terre fussent posés et que la mer avait fait rage, avant même que les étoiles du matin exécutaient et que les fils de Dieu sautaient de joie, Dieu le Tout-Puissant avait pensé à moi et à toi. Oui, à moi comme à toi, le ver de terre qui déjà, par son péché, lui donnait tant de peine et tellement de souffrance. Il avait donc déjà pensé à toi et à moi. Lui, le Dieu souverain, l'ancien des jours. Ce sont là des profondeurs insaisissables et que jamais homme ne pourra décrire avec des mots. Ici, nous ne pouvons qu'adorer le front courbé et nous ne pouvons que déposer notre vie aux pieds du Tout-Puissant. Chers amis, au commencement, Dieu créa les yeux et la terre, n'oublions jamais cela, et par la sainte parole de sa puissance, il appelait à l'existence les soleils et les cortèges. Il parla, et cela survint. Il commanda, et cela fut. Psaume 33, verset 9, ainsi que Psaume 33, verset 6. Premièrement, nous avons l'origine de la création. N'oublions pas. À la question fréquente de savoir pourquoi Dieu créa l'univers, nul n'est vraiment à même de pouvoir répondre. Étant l'absolu, le Dieu béni. 1 Timothée chapitre 1 verset 11. Il existe par lui-même. Il se suffisait, se suffisant donc éternellement à soi-même, et cela sans nul besoin de personne. Il est tout simplement amour. Et l'amour demande quoi? L'amour demande un être à aimer, donc un autre égo. Mais cet égo était déjà éternellement présent. Dans le Fils bien-aimé, l'amour divin trouvait un plaisir sans commencement ni fin, un plein développement et une permanente satisfaction. Tu m'as aimé avant même la fondation du monde. Tu m'as aimé bien avant la fondation du monde. Saint Jean chapitre 17. Verset 24. La seule chose qui puisse donc être dite ici, c'est que Dieu a créé le monde parce que il voulait le créer. Sa volonté et sa liberté ne sont pas incontrôlées pour autant ni arbitraires. La décision de créer a dû découler de raisons éternelles. Mais ce qu'elles sont, Dieu ne l'a point révélé. Romains chapitre 11, verset 33 et le verset, je crois, 34. Oui, c'est bien ça. Je pense que nous arriverons difficilement à la fin, mais j'espère quand même. Alors, deuxièmement, quel fut le but de la création? Eh bien, voyez-vous, dans quel but on peut se poser la question? Dieu a-t-il vraiment créé le monde? Et à cette question, Dieu donne lui-même une bonne réponse dans l'Écriture sainte. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Chacune des œuvres divines a Dieu pour but suprême et tout arrive pour l'amour de son saint nom. Psaume 23, verset 3. Et cela à la louange de sa gloire. Éphésiens chapitre 1, verset 6. Et versets 12 et 14. Et cela afin que Dieu soit tout, absolument tout, en tous. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28. Ensuite, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Ici, le mot révélation est correct. Voyez-vous? Faut bien faire la différence entre rédemption et révélation. Je répète donc. Ensuite, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Et je répète que ici, le mot révélation est correct. Le plan de Dieu ne peut être que parfait, ou si se développe-t-il d'une double manière. Non seulement par la manifestation de l'omnipotence, de l'omniprésence et de l'omniscience de Dieu, mais encore par le déploiement de sa justice, de son amour et de sa vérité. Les premiers de ces attributs auraient pu apparaître dans le seul cadre de l'espace et de la matière, c'est-à-dire dans les régions, ou plutôt dans le règne, il faut dire, dans le règne minéral, ainsi que dans le règne végétal et animal. Donc la sainteté étant la nature essentielle de Dieu, c'est le domaine moral qui aura la place la plus élevée. La création de personnalités morales libres, telles que les anges et les hommes, pourra seule magnifier les qualités morales du Dieu saint, du Dieu sage, en ces êtres seulement, pourra resplendir parfaitement la gloire ineffable de Dieu. Mais une telle vie spirituelle, et ceci est également vrai de toute vie morale, ne saurait être une simple manifestation extérieure et objective de respect à l'égard d'une loi, ni une simple indépendance légale par rapport au péché ou à la culpabilité. Il faut qu'elle soit une participation personnelle, organique et libre à la vie morale de la déité elle-même, en sa qualité de souverain juge. Dieu a en effet réglé l'ordre moral du monde selon sa nature. Et il est amour, l'amour le plus parfait, selon la première épître de Jean, chapitre 4, verset 16. La destination des créatures libres ne peut donc être qu'une destination à l'amour. Et le but final de la création doit être l'auto-expression du Dieu parfait, du Dieu saint et aimant, en même temps que l'établissement d'une communion de vie et d'amour entre le Créateur et les créatures que nous sommes. Cela veut dire que Dieu a appelé le monde à l'existence afin de pouvoir l'aimer, afin de pouvoir le conduire à une éternelle jouissance de sa sainteté et de son amour, et par là, à la bénédiction et à la gloire. Romains chapitre 8, verset 17. Une fois reconnu en son élévation, le but préétabli de la création du monde, nous ne trouverons rien de surprenant à ce que le cachet de la divinité repose d'une manière spéciale sur le récit uniquement biblique de la création. Les six jours sont clairement divisés en deux triades dont les membres correspondent exactement les uns aux autres. La première triade contient l'œuvre de séparation, la lumière d'avec les ténèbres, les eaux d'en bas d'avec les eaux d'en haut, la terre sèche d'avec les mers, La seconde triade représente l'œuvre de vivification et d'ornementation telles que le soleil, la lune et les étoiles, et sans oublier les poissons, les oiseaux, les animaux et l'homme. Donc, le premier jour, Dieu créa la lumière. Le quatrième jour, les étoiles porteuses de lumière. Le second jour, il fit l'atmosphère et la mer. Le cinquième, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Le troisième jour, la terre et les plantes. Donc, le plus humble degré de la vie terrestre. Et le sixième jour, il a fait les animaux et l'homme, le plus haut degré de vie terrestre. Nous reparlerons de la durée des temps de ces fameux jours. L'œuvre des six jours porte ainsi, sans contredit, le sceau du nombre trois, si souvent le symbole de la divinité dans la révélation écrite. Après trois impulsions créatrices ascendantes, intervient une pause. Alors revenons à son point de départ, comme pour un nouveau commencement, l'effort créateur atteint son point culminant par une nouvelle triple ascension. Troisièmement, nous avons la grandeur de la création. Tout d'abord, nous avons l'armée des étoiles. L'horizon de la Bible est incommensurable et universel. Le Livre Saint ne parle pas seulement de la terre et du temps, mais elle parle encore des cieux et de l'éternité. Il décrit le monde supérieur comme une multiplicité de sphères célestes. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, selon 1 Roi chapitre 8, verset 27. Loin donc de considérer notre petite terre comme le centre ou comme le point principal de l'univers, la Bible ne voit dans les nations qu'une goutte dans un seau, oui, de la poussière dans une balance. Notez Ésaïe, chapitre 40, verset 15. Il y aurait encore beaucoup à dire là-dessus. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme? Que tu te souviennes de lui, et qu'est-ce que le Fils de l'homme, que tu le visites. Notez le psaume 8, versets 3 et 4, et là j'ai pris la version biblique de Darby. Chers amis, on peut se demander comment notre terre, avec d'aussi dérisoires proportions, a pu avoir une place centrale dans l'univers, non sur le plan de l'espace, bien sûr, mais dans le plan moral, en relation avec le salut. Nous répondrons que Waterloo est une commune totalement insignifiante, et pourtant, cependant, en raison de la bataille décisive qui s'y livra, elle est mondialement fameuse et a réellement été un tournant dans l'histoire de l'Europe. C'est néanmoins la totalité de cette immensité qui constitue la charpente universelle de l'histoire du salut, car l'Éternel a établi son trône, comme vous le savez, dans les cieux, et son règne, il domine sur toutes choses. Psaume 103, verset 19. Donc face à l'immensité du monde des des étoiles. Nous pouvons comprendre, ou du moins prendre conscience, de l'étendue du conseil salvateur de Dieu, de là l'importance de placer le récit du salut, à l'instar de l'Écriture sainte, et cela sur l'arrière-plan flamboyant dans sa supra-histoire cosmique. La croix de Golgotha, son foyer, est alors justement estimé, et tout l'univers se range autour. Le pied de la croix demeure sur la terre, mais son sommet touche au plus lointain des mondes étoilés. Écrasés par tant de grandeur, nous pouvons néanmoins entendre la promesse du Seigneur « Ne crains pas, petit troupeau, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. » Saint Luc, chapitre 12, verset 32. « Levez donc vos yeux en haut, et regardez qui a créé toutes ces choses, qui fait marcher, oui, qui fait marcher en ordre leurs armées. Il les appelle toutes par leur nom, l'Éternel des armées est son nom. » Notez Ésaïe 40, verset 26, et le chapitre 51, verset 15. Ensuite, nous avons l'armée des anges. Et maintenant, à quelle fin ces mondes remplissent-ils l'espace éthéré? Dieu prend-il quelque plaisir à la matière inerte? N'est-il pas le Dieu des vivants? La matière inanimée peut-elle louer Dieu qui est le prince de toute vie? Ou bien le monde des étoiles est-il partout rempli d'êtres personnels vivants? Si parmi les soleils tourbillonnants de l'univers, cette poussière qu'est notre terre est la seule à porter la vie organique selon l'univers et un immense gaspillage. C'est donc un immense gaspillage au sein duquel une petite planète offre comme merveilleuse exception la fleur solitaire de la vie. Donc, la splendeur orgueilleuse des milliards de soleils n'illuminerait rien. Pareil à un gigantesque feu d'artifice qui serait sans but ni signification dans l'immensité morte, toutes les étoiles et les corps célestes seraient donc seulement d'innombrables cratères allumés ou éteints. Bien différent, croyez-moi, est le langage des prophètes et des apôtres de la révélation divine. La sainte parole de Dieu mentionne des trônes et des dignités, des principautés et des autorités. Notez Colossiens chapitre 1 verset 16. Elle parle des fils de Dieu et d'étoiles du matin. Job 38 verset 7. De l'armée d'en haut qui se trouve dans le ciel, Ésaïe 24, verset 21, de chérubins et de séraphins, Ésaïe chapitre 6, verset 2 et 3, et notez, dit Apocalypse chapitre 4, verset 6 à 8, l'archange, il y a des archanges, il y a des millions d'anges. Notez Jude, verset 9. Vous pouvez noter aussi die Offenbarung, donc Apocalypse chapitre 5, verset 11, et le chapitre 12, verset 7. Et pour désigner tout cela, elle emploie l'expression « armée céleste ». Il en sera parlé à la fin de notre histoire. Oui, celle-là même par laquelle elle désigne les étoiles. Dans cette façon de désigner ou de voir les deux ensemble, nous pouvons reconnaître une allusion à une nature plus profonde. Autrement, comment les étoiles du matin auraient-elles pu chanter ensemble et les fils de Dieu se réjouir en même temps? Notez Job chapitre 38, verset 7. Comment le monde des étoiles pourrait-il adorer le Créateur? La poussière le louera-t-elle? Proclamera-t-elle sa vérité? Tu es celui qui est Yahvé seul. Tu as fait les cieux des cieux et toute leur armée. Tu as fait la terre et tout ce qui est sur elle, et tu les as toutes faites vivantes, et l'armée des cieux t'adore. Notez Néhémie, chapitre 9, verset 6, lu littéralement. Donc, chers amis, on va donc bientôt terminer, parce que, voyez-vous, Dieu, le Seigneur des cieux, il est à la fois le plus parfait et il est à la fois le plus élevé. La Sainte Bible, pour parler du trône lumineux de sa puissante gloire, emprunte à la terre, pour en faire des symboles, les choses les plus précieuses, telles que le cristal, telles que l'or et les pierres précieuses. Le saphir bleu, il parle de la nature céleste. Exode chapitre 24, verset 10, ainsi que Ézéchiel chapitre 1, verset 26. Le jaspe cristallin parle de la sainteté et de la lumière, selon Apocalypse chapitre 4, verset 3, chapitre 21, verset 11, et toujours dit Offenbarung, donc Apocalypse chapitre 22, verset 1. Le vert des émeraudes parle de la fidélité de Dieu à l'alliance et du renouveau de vie. Apocalypse, chapitre 4, verset 3, et Ézéchiel, chapitre 1, verset 28. Chers amis, avant de terminer par la prière, courbons-nous et adorons-le, rappelant, pour conclure, les mots de Copernic, qu'il a écrite en 1618. Grand est notre Dieu et grand est son pouvoir. Sa sagesse est sans limite. Louez-le, vous, soleil, lune et planète. En vous vibre à jamais sa louange. Louez-le donc, vous, harmonie céleste. Louez-le, vous, qui attestez les vérités révélées et en témoignez. Et toi, mon âme, chante son honneur tout au long de tes jours. Et là, nous pouvons tous dire amen. Nous continuerons notre étude Et donc, vous avez compris, elle est intitulée « Le fondement de la rédemption ». Et dans l'étude numéro 2, nous aurons « L'origine du mal ». À bientôt à nouveau, à demain, Dieu voulant, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes le 1er janvier 2013. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous qui aimez le Seigneur, vous qui aimez Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Continuons ensemble de l'aimer durant cette année 2013. Je ne sais pas si je la vivrai tout au long, vu quand même mes 86 ans. Mais tant que le Seigneur me donnera vie, je poursuivrai ce travail de vous transmettre un certain savoir pour que vous puissiez mieux le servir. À bientôt, à demain, Dieu voulant. Au revoir.